体。
Vous écoutez RFI, il est 18h ici à Paris, 17h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Lundi 24 mars, bonsoir à tous. On reprend le train de l'actualité pour une semaine d'infos. C'est le départ de la session soirée sur RFI. Voici les temps forts des 3 heures à venir. Avec dans 10 minutes le décryptage, Véronique Rigolet, vous nous emmènerez en Turquie où la rue exprime sa colère face à l'effondrement de la démocratie.
Oui, la Turquie secouée depuis 6 jours par une vague de protestations géantes, des centaines de milliers de personnes dans les rues pour protester contre l'arrestation du maire d'Istanbul, la bête noire, le principal opposant politique au président Erdogan, le raïs turc qui semble avoir choisi le scénario du pire en se débarrassant ainsi brutalement de son rival, menaçant de faire basculer le pays dans une véritable autocratie. La démocratie turque a-t-elle vécu? Jusqu'où ira la contestation? On en parle avec nos deux invités, deux spécialistes de la Turquie, Adèle Bakawan et Didier Billon.
Eh bien, à tout à l'heure. Juste après, ce sera le débat du jour qui posera la question de la fatigue informationnelle, le fait de subir trop d'infos et trop d'infos anxiogènes, comme l'actualité y est propice, particulièrement en ce moment. Y a-t-il une fatigue informationnelle? Ce sera notre interrogation. Le phénomène semble être en progression. Que signifie-t-il? Comment y faire face? Réponse à suivre dans 30 minutes. Dans une heure, ce sera le grand journal du soir et le dossier qui sera consacré à la reprise des pourparlers sur l'Ukraine entre la Russie et les États-Unis. Négociations qui se sont tenues ce lundi à Riyad. 18h30 TU, Afrique Soir, la première édition de ce lundi. 19h10 temps universel. Comme chaque soir, votre session reportage pendant 50 minutes. Accent d'Europe sera en Ukraine avec le témoignage de soldats ukrainiens de retour, retour douloureux. Et puis le grand reportage, enfin, à Farshana, c'est une localité du Soudan qui fait face à une double crise climatique et humanitaire.
RFI.
Voilà pour le programme et pour l'heure 17h de temps universel, c'est le journal de Juliette Pietraszewski. Bonsoir Juliette.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Et à l'une donc, cette journée sous le signe des négociations à Riyad en Arabie Saoudite.
Des discussions sur la guerre en Ukraine entre Américains et Russes. L'objectif de Donald Trump est de parvenir à un cessez-le-feu. Des pourparlers indirects ont également eu lieu ce dimanche entre les représentants américains et ukrainiens. Aujourd'hui, c'est donc au tour de la délégation russe. Comment ces négociations sont-elles perçues en Ukraine? Écoutez la réponse du politologue ukrainien Mikhailo Shabanov, interrogé par Kristina Petkova.
En tant que citoyen ukrainien, je suis vraiment très inquiet du format même de ces négociations. Ce sont des négociations sur l'Ukraine, mais sans l'Ukraine. En tant que politologue, je comprends que parfois une troisième partie peut aider à dialoguer quand deux camps ne peuvent pas se rencontrer pour diverses raisons objectives. Mais ici, on voit que cette troisième partie, que ce soit le président américain ou ses représentants comme Steve Witkoff, défend surtout les intérêts des États-Unis. C'est préoccupant, car au lieu d'être un véritable médiateur, Donald Trump impose surtout son propre point de vue et n'écoute pratiquement pas la partie ukrainienne, ou alors de manière très fragmentaire.
Le politologue ukrainien Mikhailo Shabanov, interrogé par Kristina Petkova. À Gaza, l'armée israélienne a repris ses opérations militaires le 18 mars dernier, mettant fin à une trêve en place depuis janvier. Et depuis cette reprise de la guerre, le Hamas parle de près de 730 morts. De son côté, Israël a annoncé avoir tué un responsable du Hamas dans une frappe aérienne israélienne, donc sur l'hôpital Nasser de Ran Younes, dans le sud de l'enclave palestinienne. Information confirmée par le ministère de la Santé du Hamas. La branche armée du Hamas, elle, a diffusé ce lundi une vidéo avec deux otages israélien enlevé le 7 octobre 2023. La vidéo d'un peu plus de 3 minutes, dont la date d'enregistrement ne peut pas être vérifiée pour l'instant, montre les deux otages assis, demandant à un ex-otage désormais libéré de raconter ce qu'il a vécu en captivité pour accélérer leur libération. Et un peu plus tôt dans la journée, le média Al Jazeera a également annoncé la mort d'un journaliste travaillant pour une de ses chaînes dans une frappe à Gaza. En un an et 3 mois de guerre dans le territoire, l'armée israélienne a tué plus de 150 journalistes palestiniens, dont au moins 41 dans l'exercice de leurs fonctions, souligné également en janvier dernier l'ONG Reporters sans frontières, RSF, qui s'intéresse aussi à la Cisjordanie. Arrestation arbitraire, journalistes visés par des tirs, interdiction d'exercer ou de se déplacer, la répression contre la presse s'intensifie, selon RSF qui a compilé les témoignages de nombreux journalistes sur place. Ils ont répertorié au total 20 attaques autour des camps de réfugiés depuis début 2024, ainsi que 17 journalistes arrêtés, comme nous l'explique le Jonathan Daguerre, responsable du bureau Moyen-Orient de RSF.
Par exemple, un des journalistes qui travaille pour l'agence France Presse, il était au sud de Jenin avec un groupe de journalistes. Ils sont vêtus de gilets et de casques clairement marqués presse, mais tout de même, ils se sont fait tirer dessus par des balles en caoutchouc par un jeep militaire. Un autre journaliste a failli être écrasé par un jeep militaire qui lui a foncé dessus, mais il a abandonné son matériel pour courir à la dernière minute. Et c'est en fait son matériel qui a été écrasé. Donc voilà, il y a cette intention de terroriser ces journalistes-là, de les décourager d'arriver et de filmer. C'est très difficile d'avoir l'information parce que se déplacer d'un village vers un autre nécessiterait de franchir au moins 15 ou 16 ou 17 checkpoints militaires. Et sur chacun de ces checkpoints, ces journalistes risquent d'être arrêtés, fouillés, retardés. Et ça devient de plus en plus grave parce que cette région, on en parle très peu, surtout dans l'ombre de ce qui se passe à Gaza. Et ça remonte à une tentative d'imposer un blackout médiatique sur cette zone de conflit. On ne peut pas parler de la même ampleur de violence, heureusement, parce qu'à Gaza, c'est vraiment une tragédie sans précédent pour les journalistes. Mais on voit certainement la même intention, c'est-à-dire l'intention de cibler des journalistes qui sont clairement identifiables. Et c'est ça ce qui est dangereux.
Des propos recueillis par Camille Salcedo-Ruiz. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a créé plusieurs polémiques et le Groenland n'a pas été épargné. Le président a fait part de son intention d'annexer ce territoire autonome danois avec dans le viseur des ressources minières. Eh bien, le premier ministre groenlandais sortant a dénoncé aujourd'hui une ingérence étrangère à l'occasion de la visite jeudi prochain d'une délégation américaine. Notre intégrité et notre démocratie doivent être respectées sans aucune ingérence extérieure, a-t-il déclaré sur Facebook, précisant qu'il n'y aurait aucune rencontre avec cette délégation. Donald Trump et sa politique migratoire font aussi parler d'eux. Caracas a annoncé ce week-end la reprise des vols de rapatriement après un différend avec le président américain. Un avion en provenance du Honduras avec à son bord 199 migrants expulsés des États-Unis est arrivé tôt ce matin au Venezuela. Le Venezuela également pris de court par le changement climatique avec la sécheresse intense. Il n'y a plus assez d'eau pour alimenter les barrages qui génèrent 80% de la production électrique vénézuélienne. Les autorités viennent de se résoudre, comme à la fin des années 2010, à des mesures radicales d'économie d'énergie, en plaçant les administrations publiques au service minimum, Vincent Souriau.
Les guichets ne seront ouverts que le matin, entre 8h et midi et demi, et les autorités imposent en outre la règle du 1 pour 1. Pour chaque jour de travail, les fonctionnaires devront prendre un jour de congé. Autrement dit, la plupart des administrations seront fermées la moitié de la semaine, à l'exception, précise le gouvernement, des organismes qui fournissent des services essentiels à la population, santé, sécurité ou transport public. Tous les Vénézuéliens sont appelés à participer en faisant la chasse au gâchis d'énergie, débrancher les appareils électroniques lorsqu'ils ne servent pas, régler la climatisation et ne pas descendre sous les 23 degrés ou s'appuyer sur la lumière naturelle pour limiter le recours à l'éclairage artificiel. Le Venezuela parle d'une stratégie qui vise à réduire l'exposition aux chaleurs extrêmes dans les bureaux, protéger la santé des travailleurs et assurer la continuité du service public sans, je cite, compromettre le bien-être social.
Les précisions de Vincent Souriau. On parlait de mesures radicales d'économie d'énergie, eh bien l'an dernier, la consommation d'énergie dans le monde a été en forte hausse. Sur la seule année 2024, la demande a augmenté de 2,2%, soit presque le double de la moyenne des 10 années précédentes. C'est le résultat du rapport annuel publié ce lundi par l'Agence internationale de l'énergie. Sur les raisons de cette hausse, on écoute Stéphanie Schuller.
L'an dernier, la demande en énergie était en hausse partout dans le monde. La consommation d'électricité notamment a fait un bond de 4,3%. Les trois raisons principales, les vagues de chaleur records en 2024 qui ont incité les populations à faire tourner les climatiseurs à plein régime, l'intelligence artificielle très énergivore et enfin la mobilité douce avec l'arrivée des véhicules électriques. 80% de cette électricité supplémentaire demandée a été fournie par les énergies renouvelables et le nucléaire. La demande de pétrole, en revanche, a baissé et représente pour la première fois moins de 30% du mix énergétique mondial, surtout en raison de la Chine, souligne Fatih Birol, directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie.
Au cours des 10 dernières années, la Chine était à elle seule responsable de plus de 60% de la croissance de la demande mondiale de pétrole. Mais avec une économie chinoise qui ralentit et change de nature, et la vente des véhicules électriques qui s'envolent, la demande chinoise chinoise de pétrole devient très faible.
Malgré cela, les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter, mais désormais plus lentement que la croissance économique mondiale.
Les explications de Stéphanie Schuller du service environnement de RFI. RFI, il est 18h10 à Paris et on retrouve Véronique Rigolet pour le décryptage.